La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre frère. Bienvenue à vous tous ici dans cette maison de prière. Bienvenue à tous ceux qui sont habitués et à tous ceux qui poussent pour la première fois la porte de ce temple. Vous êtes ici chez vous, dans votre maison de prière, et nous espérons que vous y trouverez le bon accueil qui sied à ce lieu. Nous allons maintenant nous réunir dans la communion fraternelle avec le premier spontané du livret qui est inséré dans les psautiers français. Vous trouverez toute la liturgie avec les répons qui sont inscrits dedans et vous pourrez ainsi chanter vous-même votre prière. Et nous allons donc chanter ensemble avec David Cassan qui nous accompagne ce matin et Sylvie Junio qui est venue aussi aujourd'hui pour chanter pour nous. Seigneur, et nous le louons ce matin avec les propos du philosophe Søren Kierkegaard. Toi qui nous as aimés le premier, ô Dieu, nous parlons de toi comme si tu ne nous avais aimés le premier qu'une seule fois dans le passé. En réalité, c'est tout au long des jours et tout au long de la vie que tu nous aimes le premier. Quand nous nous éveillons le matin, et que nous tournons notre âme vers toi, tu nous devances, tu nous as aimés le premier. Si je me lève avant l'aube et tourne vers toi à la même seconde, mon âme et ma prière, tu me devances encore, tu m'as aimé le premier. Quand je m'écarte des distractions et recueille mon âme pour penser à toi, tu es encore le premier. Pardonne-nous, ô Dieu, notre ingratitude si souvent. Ce n'est pas une fois que tu nous as aimés le premier, c'est à chaque instant de notre vie. Loué sois-tu. Amen. Et nous chantons notre louange dans les psautiers français. Nous prenons le psaume 72, les strophes 1, 2, 3 et 4.
Thank you.
vous invite à vous asseoir. Écoutons la volonté du Seigneur pour nous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Voilà le premier commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que ces deux commandements soient toujours liés dans notre vie. Et nous chantons. Dietrich Bonhoeffer, le théologien, disait que la condition pour qu'une assemblée soit dans la communion fraternelle, c'est que chacun reconnaisse avec humilité, se reconnaisse pécheur. Nous nous présentons devant Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons te dire notre peur et notre angoisse devant le mal et la souffrance de ce monde. De dire aussi notre honte et notre confusion parce que nos propres fautes prolongent et augmentent cette souffrance. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir si naturellement comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain avec l'ardeur, le respect et l'attention qu'avait Jésus. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te suivre. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la grâce renouvelée. Dieu renouvelle cette grâce pour nous et il s'adresse à chacun de nous en disant « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance en paix. » Partageons maintenant une confession de foi possible. Je crois en Dieu sans pouvoir le définir, Il est la transcendance qui donne une autre dimension à ma vie. Je ne connais pas son nom, je n'ai de lui aucune image, mais toujours dans ma vie, il est là. Comme une lumière qui éclaire mon chemin, un vis-à-vis dans la solitude des jours. Je crois que si ma foi vacille, il croit en moi sans se désespérer, et c'est là mon espérance. Je crois en Jésus et je crois qu'il est le Christ. Dieu s'est révélé à lui et l'a pris pour fils. Il a cru en l'amour de Dieu et a aimé son prochain inconditionnellement. Il a été fidèle jusqu'au bout, loyal jusqu'à en mourir. Son exemple me conduit. Jésus est pour moi un maître de sagesse. Sa résurrection a lieu chaque fois que nous marchons dans ses pas. Je crois en l'Esprit Saint et je ressens son action entre les hommes qui veulent faire advenir le royaume de Dieu. Il nous réunit dans la communion fraternelle. Il me reprend quand je m'égare et il éclaire les ténèbres de ma vie. J'ai confiance en son souffle. Il m'a tant de fois sauvée. Je crois en l'homme quand il transforme le monde pour le rendre plus juste, plus beau et habitable pour tous. Je crois que nous faisons ce que nous pouvons, même si ce n'est pas assez. Et j'ose croire que la foi, l'espérance et l'amour président à l'action de beaucoup sur cette terre. Je crois qu'il me faut ressusciter chaque jour de ma vie. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir. Ce matin, ce n'est pas une surprise, nous lirons dans le livre des Actes, au chapitre 1, les versets 1 à 11. Un jour d'ascension, on imagine qu'on n'a pas beaucoup le choix, mais en fait, il y a beaucoup d'ascensions qui se sont déroulées dans les récits bibliques, et nous allons voir ensemble que cette tradition des ascensions n'est pas seulement réservée à Jésus, notre Sauveur. Mais nous lirons quand même ce texte en première lecture. Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, il se présenta vivant après avoir souffert. Il leur apparut pendant 40 jours, parlant du règne de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, pendant qu'il regardait, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il fixait le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes en habit blanc se présentèrent à eux et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Je vous invite à chanter le cantique 202 dans les louanges et prières, les petits livres bleus. Je vous invite à prier ensemble pour nous disposer à écouter. Accorde, Seigneur, à nous tous ici rassemblés, un cœur ouvert, sincère. Permets que nous soyons capables d'entendre ta parole au milieu des témoignages anciens. Que la Bible, témoignage de ceux qui ont cru avant nous, soit pour nous une ouverture vers ta parole et ta volonté. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et nous entendons un extrait du Messie de Handel. Après une si belle musique, les mots semblent un peu insuffisants. Je vais essayer d'être à la hauteur de cette beauté. Moi, j'envoie sur vous ce que mon père a promis. Vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous voyez, que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les emmena jusqu'à Béthanie et puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après s'être prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple et bénissaient Dieu. Voilà comment se termine l'évangile de Luc. L'évangile qui est raccordé très clairement avec les Actes des apôtres, avec ce livre qui commence tout le cycle des actes de ceux qui ont suivi Jésus. Voici comment se conclut donc l'évangile. Et si l'on considère que les deux livres sont bien la suite l'un de l'autre, on peut s'étonner de trouver deux fois le même événement, l'un en conclusion d'un livre et l'autre en introduction du deuxième. La pratique de diviser en deux une œuvre jugée trop longue est assez courante à l'époque des rédactions des évangiles, et les deux livres n'en faisaient sans doute qu'un au départ. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir gardé comme introduction au livre des Actes la redite d'un événement si problématique. On a presque de la peine à se dire qu'on fête l'Ascension. C'est un moment qui peut revêtir quelques superstitions. Un homme qui s'en va comme ça et qui est retiré au ciel. C'est assez étrange. Le livre des Actes aurait pu commencer par la Pentecôte, par exemple, qui est en effet un peu merveilleux aussi, mais on aurait pu commencer directement par l'arrivée du Saint-Esprit sur les apôtres, qui aurait permis ensuite d'ouvrir toute la geste de ces apôtres qui allaient faire des miracles comme Jésus. Mais l'auteur a jugé bon de faire de l'ascension du Christ un récit détaillé au début de son livre, au début de cette deuxième partie donc de son livre. Luc n'est pas le seul auteur à raconter l'ascension du Christ auprès de Dieu le Père. On trouve cet enlèvement au ciel dans l'évangile de Marc, dans sa deuxième version. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Par mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, quel qu'il soit, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent proclamer partout le message. Voilà qui est très simple. Dans cette deuxième finale de Marc, on trouve des accents apocalyptiques qui ne sont pas présents dans la première finale qui se termine par la découverte du tombeau vide et simplement la peur des femmes qui ne disent rien à personne. Sans doute les temps ont changé entre la première rédaction et la seconde, ou bien est-ce l'auditoire qui n'est plus le même et réclame cette fois-ci le merveilleux propre au divin. En tout cas, la deuxième finale fait une large place à cette ascension du Christ. On sent ici une forte envie de donner aux membres de la communauté une assurance et une audace que le premier récit ne cherchait pas, et une insistance aussi sur la divinité du Christ, qui n'était pas démontrée par le récit du tombeau vide. Ici, l'ascension peut être considérée comme le passage de relais entre Jésus et les disciples. La mission des douze commence vraiment là où l'absence de Jésus se fait testament et envoie. Cette ascension peut aussi être comprise comme une préfiguration de ce qui arrivera à ceux qui croient en Jésus-Christ. Eux aussi, peut-être, seront-ils emmenés au ciel. Jean parlera aussi de cette montée vers le Père quand il mettra dans la bouche de Jésus ces paroles adressées à Marie-Madeleine : « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. » Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Ici, l'ascension revêt un caractère de partage avec tout homme qui croit, et cette place auprès du Père n'est pas réservée à Jésus seul. Mais dans l'évangile de Jean, les choses ne s'arrêtent pas là, et après cette annonce, Jésus se fait encore voir aux disciples. Et le témoignage de Marie-Madeleine ne semble pas suffire. Il faut encore plusieurs apparitions pour que l'évangile se termine enfin. En regardant ces récits, une chose apparaît de manière certaine. L'absence de Jésus pose problème à ceux qui restent. Comment faire après avoir écrit les récits de résurrection? Où est-il ce Jésus qu'on appelle le Messie? Est-il conforme au récit messianique qui annonçait sa venue? Est-il autre que ce que les prophètes attendaient? Il est bon de se demander quelle conception messianique avaient les auteurs des évangiles et du livre des actes. La notion de Messie a beaucoup évolué au fil des âges, et du Messie qui devait être un homme descendant du roi David et capable de sauver Israël des vicissitudes de l'histoire, on en est arrivé à un homme divinisé dans une apothéose. Il faut dire que dans la Bible, d'autres personnages illustres sont élevés au ciel et placés près de Dieu. C'est le cas, par exemple, d'Élie, qui s'en va sur son char en feu. Mais c'est aussi le personnage d'Enoch dans la Genèse, qui est lui aussi disparu, tout simplement, qui n'existe plus. Enoch est le personnage qui va ici nous aider à comprendre pourquoi ce récit de l'ascension de Jésus revêt une importance capitale pour comprendre l'attente messianique de ses disciples. Dans le livre de la Genèse, il est écrit « Quand Enoch eut 65 ans, il engendra Mathusalem. Enoch vécut 300 ans et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de sa vie, de la vie d'Enoch, fut de 365 ans. Et Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus, car Dieu l'enleva. » Voilà ce qu'on peut lire dans le chapitre 5 de la Genèse. Aucun autre personnage dans la Bible n'a ce destin. « Il ne fut plus », dit le texte. Non pas « il mourut », mais plutôt « il cessa d'exister à la manière d'un homme ». Enoch est sans doute le premier humain dont on imagine qu'il change de règne et devient divin, élevé par Dieu et inexistant dans le monde des humains. Parallèlement à cette tradition de l'apothéose d'Enoch, la tradition du Fils de l'homme, venant sur la terre pour exercer la rédemption divine, va se développer à partir de la description qui en est faite dans le chapitre 7 du livre de Daniel, un autre prophète. On y décrit un fils de l'homme qui sera le prince de paix, tant attendu par Israël et qui est cette fois envoyé par Dieu. Il vient du ciel. On est ici en présence d'une théophanie et non plus d'une apothéose, un Dieu qui se laisse voir à travers un envoyé. Le personnage d'Enoch dans les écrits qui vont s'écrire à l'époque de Jésus et après va devenir un condensé de ces deux traditions et de celui qui avait été enlevé au ciel par Dieu alors qu'il était humain. Il va devenir, à l'exemple du Fils de l'homme annoncé dans Daniel, celui qui avait été envoyé par Dieu dans le monde pour accomplir le règne de Dieu avant de remonter au ciel. Enoch va donc faire des allées et retours. D'après le spécialiste du Talmud, Daniel Boyarin, ces deux traditions vont se mêler à l'époque de Jésus pour n'en former qu'une. C'est sans doute ce qui conduira les contemporains de Jésus à voir Jésus comme un Messie divinisé par son baptême et par la suite, rédempteur préexistant à l'humanité et descendant sur terre pour ensuite remonter auprès de Dieu lors de l'ascension. On voit ici qu'une ascension est toujours précédée d'une descente. L'ascension n'est donc pas un motif propre aux évangiles seulement, il est le résultat d'influences de traditions plus lointaines et parcourant le judaïsme d'alors. Il semble d'ailleurs que le personnage d'Enoch puisse être lui-même le résultat d'influences mésopotamiennes où certains personnages venaient du ciel puis y remontaient. La chose n'est donc pas récente. Ce glissement des traditions qui finissent par se conjuguer donne une vision de Jésus très surnaturelle, qui passe du ciel à la terre, qui en vient, qui repart, qui revient, qui est promis à revenir encore une fois, mais qu'on attend toujours. Cette vision posera immédiatement le problème de l'unicité de Dieu. Comment le Dieu unique peut-il être à la fois Père, Fils, Saint-Esprit? Comment le ciel peut-il se peupler d'autres que le Dieu unique? Si Jésus est divin, qu'en est-il alors de Dieu? L'histoire des traditions permet aussi de comprendre d'autres éléments du texte du livre des Actes qui pourraient passer inaperçus ou secondaires si on n'y prenait pas garde. C'est bien 40 jours après la résurrection que l'ascension a lieu. 40 jours durant lesquels Jésus se fait voir d'eux. Ces 40 jours sont comme les 40 jours passés au mont Sinaï par Moïse avant de recevoir les tables de la loi. Et ils reprennent les 40 jours que Jésus passa dans le désert où il fut tenté après son baptême. L'ascension apparaît comme le moment où le peuple fondé par Jésus, comme celui qu'avait fondé en son temps Moïse, reçoit les règles qui lui permettront de marcher seul dans la foi en Dieu. Ce peuple de témoins n'a rien à craindre. Il peut désormais vivre de ce que Jésus a laissé comme testament. Et toutes les apparitions vont être des moments où Jésus donnera, lèguera à ses disciples ce qu'ils doivent faire. En tout cas, c'est ce que les auteurs veulent faire transparaître de leurs écrits. Le récit de l'ascension a pour effet sur les lecteurs deux effets contradictoires. Si cet enlèvement de Jésus le légitime comme Messie et fait de lui un nouveau Moïse, propre à libérer et donc à sauver le peuple, dans le même temps, il fait de lui un Dieu à côté de Dieu. Et c'est là que commencent bien des ennuis. Alors que le tombeau vide laissait entière la question de l'après-mort, le tombeau était vide et on ne savait ni où il était, ni s'il reviendrait. L'ascension répond de façon dogmatique à la question de l'après-mort et introduit inévitablement une localisation du royaume des cieux. C'est là une façon de figer les choses dans un dogme. C'est là une façon de combler le vide. Dans les siècles qui vont suivre, les théories sur le ciel et la place de Jésus auprès de Dieu vont redoubler d'inventivité pour représenter, figurer le ciel et y enfermer petit à petit Jésus et Dieu et le Saint-Esprit. L'exemple de ce texte du IIIe siècle intitulé « L'ascension d'Isaïe » est éloquent sur le sujet. Il décrit le prophète Isaïe racontant au roi d'Israël Ézéchias l'expérience mystique qui lui est arrivée. D'emblée, on est frappé par ce tour rhétorique qui consiste à faire de ce récit mystique un récit d'anticipation. Comme si Isaïe, qui vivait il y a très très longtemps avant Jésus, était lui-même celui qui voyait Jésus venir et monter au ciel près de Dieu. Le prophète du Premier Testament, dont l'époque n'a rien à voir avec l'époque de Jésus, va se retrouver pris par la main par un ange dans une montée à travers les sept cieux qui constituent l'au-delà. Dans les différents cieux sont toujours présents d'autres anges qui sont plus ou moins sympathiques, selon qu'ils se trouvent près de la terre ou très haut dans le ciel. Plus on approche de la terre, moins ils sont accueillants. Isaïe monte jusqu'au septième ciel où il contemple la gloire de Dieu. Il a du mal d'ailleurs à la regarder. Et Jésus est assis à la droite de Dieu et l'Esprit Saint est assis à sa gauche. Puis il voit Jésus descendre dans un mouvement de kénose, c'est-à-dire qu'il se dépouille de ses attributs divins pour descendre incognito dans le monde terrestre et retraverser les sept cieux. Et personne ne reconnaît en lui le Messie quand il passe. Les anges sont abusés par cet être divin qui petit à petit devient de plus en plus humain. Il va jusqu'à être crucifié sur la terre et ressuscite. Et après la résurrection, il remonte chaque ciel et du premier au septième, on lui rend gloire et on se lamente de ne l'avoir pas reconnu quand il descendait dans la condition humaine. Puis vient l'ascension glorieuse où Jésus atteint le septième ciel et l'ange qui guidait Isaïe dans son voyage mystique le libère enfin pour qu'il retourne dans le monde des humains et il lui promet qu'il reviendra ensuite quand les jours seront accomplis. Ainsi, ce texte est un texte exemple de tout ce qui a pu se dire et s'écrire à propos du ciel. Ce récit figure des choses impossibles à voir et localise le septième ciel qu'on peut apparenter au paradis en hiérarchisant ainsi les différentes étapes. En introduisant la place réservée aux justes qui sont dans le septième ciel, le récit introduit aussi un jugement dernier qui n'est plus intime à la conscience de chacun, mais qui qualifie ou disqualifie les hommes selon qu'ils ont choisi le bon ou le mauvais combat. On a là une morale qui va venir s'immiscer dans la pensée du ciel. Mais à la question « Où va-t-on après la mort ?», personne n'a de réponse et l'imagination continue à œuvrer. Comme pour le récit de la Transfiguration, le récit de l'Ascension ne dit que ce qui pose problème à ceux qui restent sur la terre ferme sans comprendre. Sans doute les disciples et après eux les évangélistes ont-ils posé la question de l'après, de l'au-delà. Et comme eux, à leur époque, le lecteur contemporain de ce récit pourra se poser la question de l'après-Jésus. Si les disciples se posaient cette question dans la perspective de bâtir une communauté au nom du Maître, les lecteurs contemporains se la posent avec en toile de fond l'histoire des traditions chrétiennes, avec leur construction dogmatique et parfois malheureusement leur perversion de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Depuis les Actes des Apôtres, l'Église a fait son œuvre et elle est multiple, chaque fois différente et en même temps toujours au bénéfice de ce témoignage. Et nous voyons les effets que les dogmes ont eus sur ceux qui cherchaient Dieu. Dans une tradition qui sous-tend toutes les lettres de Paul, Jésus devait revenir et il n'est pas revenu. La fin des temps était proche, car Paul était millénariste, et nous avons aujourd'hui cessé de l'attendre dans une pensée millénariste. Alors que veut dire être chrétien aujourd'hui à la suite de Jésus? Que veut dire vivre de sa loi, de ce témoignage, de ce testament qu'il a laissé? Que veut dire témoigner de sa parole en son absence? Sans doute les certitudes sur le ciel et sur le lieu où s'assied Dieu ne nous aideront pas beaucoup à donner forme à notre témoignage de foi. Et même s'il faut connaître ces traditions pour identifier leur résurgence dans notre monde, il faut aussi s'en libérer et faire de l'absence du Christ une véritable anticipation de ce qui se passe dans la foi avec lui. Il faut en faire une véritable libération pour que nous puissions nous libérer de tout ce que les Églises ont pu faire pour enfermer Jésus au ciel. L'ascension du Christ nous encourage à garder l'absence, le vide, comme une condition essentielle à tout discours de foi. Ne pas chercher à remplir, à comprendre, à expliquer. Jésus a laissé à ceux qui le connaissent son héritage spirituel. Il n'a pas laissé une adresse où le rejoindre. Les témoins ont reçu cet héritage. Mais comme souvent le font les héritiers, ils se sont très tôt battus pour des questions d'orthodoxie du message, sans tenir compte du fait que Jésus n'était plus là pour trancher et dire ce qu'il voulait vraiment pour la postérité de son message. À nous d'inventer une religion qui suit l'enseignement du Maître, mais sans jamais croire que nous le connaissons complètement, sans l'enfermer dans les schémas messianiques préétablis, dans les valeurs morales, dogmatiques ou dans des comportements éthiques dictés par nos propres intérêts. Placer Jésus sur un trône à côté de Dieu dans le ciel, c'est le garder bien sagement là où il ne nous dérangera plus et là où il n'y aura plus de surprises, et c'est sans doute ce que nous devons éviter à tout prix. Le Seigneur des choses impossibles nous surprend sans cesse, et il faut nous laisser saisir, non pas pour monter au septième ciel pour voir où il est, mais pour parcourir avec lui ce monde qu'il a aimé et essayer de l'aimer comme il l'a fait. Laissons Jésus dans sa liberté qui fut sa liberté, la sienne, durant sa vie. Laissons-le aller vers son Dieu avec l'idée qu'il s'en faisait et que nous ne connaîtrons sans doute jamais. Laissons-le faire de son absence une existence qui se réinvente sans cesse dans notre foi. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le choral 22 qui se trouve à la fin des psautiers français dans la sélection de chorales luthériens.
Jesus.
Voilà, c'est le moment de partager juste quelques annonces pour vous dire que dimanche, il y aura un culte qui sera présidé par le pasteur Brice Démier, qui est aumônier général des prisons. Et donc, je vous invite à revenir dimanche pour entendre la prédication de mon confrère. Et il y aura un repas de paroisse le dimanche midi et samedi après-midi, un concert d'orgue ici même. Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons pouvoir vivre un moment de collecte au profit de l'Église protestante unie de l'Oratoire du Louvre qui ne vit que de ses dons. Merci beaucoup à David Cassan et à Sylvie Jugnot qui interprétaient un autre extrait de Handel qui exprimait la joie. Je vous informe aussi qu'il y aura ici un grand concert qu'il ne faut pas rater le 7 juin, après le concert de samedi qu'il ne faut pas rater non plus. Vous aurez la possibilité de venir entendre La Passion selon Jean chanter ici même dans ces lieux. Vous avez toutes les informations sur le site internet de notre église Oratoire du Louvre. Je vous invite à vous recueillir dans la prière. Seigneur, en ce jour d'ascension, nous pensons à toutes les familles qui vivent l'absence d'un proche, toutes les familles qui sont dans le deuil et pour qui la question de l'après-mort est une question douloureuse. Donne-nous, Seigneur, d'être à leur côté et de marcher patiemment avec eux pour que cette question devienne l'ouverture de toute la miséricorde de Dieu. Donne-nous, Seigneur, des cœurs aimants pour ceux qui sont endeuillés. Nous te présentons, Seigneur, toutes les personnes qui sont malades et qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui. Nous te les remettons, mais nous ne les oublions pas et nous sommes avec eux. Permets que nous soyons à leur côté dans le moment d'épreuve qu'ils traversent. Et qu'ensemble, nous puissions être dans la confiance, dans ton soutien, Seigneur. Nous te présentons, Seigneur, nos églises. Permets qu'elles acceptent de vivre dans une docte ignorance, non pas pour entretenir une bêtise, mais pour être accueillant avec ta parole. Permet que nous ne soyons pas des combleurs de vide, mais que nous puissions accueillir ce que nous ne comprenons pas avec l'intelligence que tu nous demandes. Donne-nous, Seigneur, la possibilité de croire et de douter sans jamais craindre pour l'alliance que nous avons avec toi. Donne-nous la possibilité de toujours questionner les témoignages qui nous sont parvenus et que nos églises annoncent la liberté du croyant plutôt que les dogmes qui enferment ta parole. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont la responsabilité politique de nos pays, et principalement en Europe, puisque les élections ont eu lieu. Donne-nous, Seigneur, d'être là aussi, avec des cœurs ouverts, pour que tous nous puissions avoir une place dans la tolérance et dans la bienveillance les uns pour les autres. Permets, Seigneur, que tous les mouvements d'ostracisme, de refus de l'autre, puissent être combattus par cet amour du prochain que tu nous as appris. Ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est le moment de s'élever, de s'envoler de ce lieu, et de partir dans ce monde pour annoncer la bonne nouvelle du Christ. Allez et dites à tous qu'il les aime. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce nous bénit et nous garde. Amen. Et nous allons chanter le dernier spontané et nous pourrons, pour ceux qui le peuvent, nous asseoir et entendre notre organiste une dernière fois pour qu'il puisse interpréter le dernier morceau de ce temps de culte. Merci.